Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h04 et avec des petits problèmes techniques, on commence quand même le journal radiophonique amplifié numéro 56 de ce jeudi 21 novembre 2019. Aujourd'hui, on va parler actualité, bien sûr, avec toute l'équipe qui sera de nouveau réunie. Il y aura une revue de presse, un billet politique, un billet économique qui fait son grand retour sur les ondes. Il y aura de la culture et de la musique comme d'habitude et même un édito scientifique. On commence tout de suite sans plus tarder avec l'actu mixé, égalisé, monté et bien sûr amplifié. Et tout de suite, on commence le journal avec au programme du National et notamment une réforme sur les hôpitaux.
Oui Mathilde, en effet, la réforme Édouard Philippe a présenté hier un plan d'urgence pour l'hôpital public suite à plusieurs semaines de mobilisation. Parmi les annonces, une rallonge budgétaire de 1,5 milliard prévue pour les trois prochaines années, la reprise d'un tiers de la dette des hôpitaux publics, soit 10 milliards d'euros, pour contrecarrer la baisse de 50% des dépenses de l'investissement hospitalier en 10 ans liées à cette hausse de la dette, mais également la mise en place de nouvelles primes pour renforcer l'attractivité de certains métiers, comme une prime annuelle de 800 euros pour les infirmiers et aides-soignants de la région parisienne qui ont du mal à se loger avec moins de 1900 euros par mois, mais également une prime pour les aides-soignants qui exercent auprès de personnes âgées et une autre pour récompenser l'engagement et l'investissement des personnels médicaux. A aussi été annoncée une réforme du statut des médecins travaillant à l'hôpital. Les mesures visent à un réel assouplissement, avec l'ouverture de la possibilité pour ces médecins de devenir chefs d'établissement, une reconnaissance renforcée des activités non cliniques, comme la recherche ou l'enseignement, mais également la possibilité d'une rémunération variable. Des mesures qui n'ont pas convaincu les soignants en colère, qui dénoncent des actions très loin de répondre à leurs attentes et qui appellent à une nouvelle manifestation le 30 novembre.
Et du côté de Airbnb et des hôtels, ça gronde.
C'est clair, on a l'impression que les problèmes s'amoncellent autour de l'organisation des JO 2024 qui, rappelons-le, prendront place à Paris. C'est cette fois une histoire d'hôtellerie qui met en cause les organisateurs des JO, et en particulier le Comité international olympique. L'UMIH, Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, s'est réunie mercredi dernier à Biarritz. Et pour eux, c'est un contrat à 500 millions d'euros avec la plateforme Airbnb qui ne passe pas. Où est la moralité ? S'est interrogé Roland Egui, son président, jugeant, je cite, « outrageux » de faire de cette entreprise, qui joue de la déréglementation dans tous les pays du monde, un partenaire mondial du CIO, en ajoutant que l'offre hôtelière et francilienne était en plus un atout dans le dossier de candidature de la ville de Paris. Airbnb, de son côté, défend cet accord, je cite, « historique », accord qui viserait à permettre aux villes hôtes d'accueillir les Jeux de manière plus locale, authentique et durable. Pas vraiment une défense efficace, plutôt une juxtaposition de termes clés pour une entreprise poursuite en justice par la mairie de Paris, qui, elle, ne se mouille mais pas trop dans cette polémique en promettant aux hôteliers une réponse politique mais sans pour autant proposer de solutions claires. Affaire à suivre.
Et on va parler des maires aussi avec toi Nicolas.
Et c'est le retour d'Emmanuel Macron au Congrès des maires, une édition qui s'est déroulée entre le 19 et le 21 novembre sous le signe du suspense. Des sifflets, pas de sifflets, ou même peut-être un président accueilli sous des hurrahs municipaux, on sait jamais, faut tout prévoir. Et ben cette fois, c'est un silence total, entrecoupé de quelques toussautements de maires indifférents au sucre des mots présidentiels, formulation empruntée au vice-président de l'Association des maires de France, André Laginel. Les maires s'échappent par petits groupes pendant que Macron implore au micro « J'ai besoin de vous !» Jean-Marie Truchot, maire de Cramence dans le Jura, et un des fugitifs du fameux discours, fait une confidence au journal Le Parisien. Cela tombe un peu creux, même s'il y a beaucoup d'effets de manche. Mes voisins se sont endormis, et moi, je n'en étais pas loin. En somme, une ambiance habituelle de congrès. Pour Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales et figure de proue du gouvernement.
Et Marie, tu vas nous parler d'un Grenelle plus que d'actualité.
Et oui, puisque les 11 groupes de travail du Grenelle contre les violences conjugales présentaient hier leurs 60 propositions. Parmi les mesures suggérées, formation, brevet contre la violence conjugale à l'école, autorisation pour un médecin d'informer les autorités de violence même sans accord de la victime, inscription du suicide comme circonstance aggravante et j'en passe. A aussi été vivement débattue la question de l'autorité parentale, confiée pour l'instant au juge des affaires familiales. En septembre avait été adoptée la proposition de loi contre les violences faites aux femmes, portée par le député LR Aurélien Pradier, et qui prévoyait notamment un bracelet anti-approchement pour les conjoints violents, ainsi qu'une réduction des délais d'attribution des ordonnances de protection pour les juges aux affaires familiales. La prochaine étape, des réunions interministérielles pour faire des arbitrages, ainsi que la présentation de mesures par le gouvernement lors de la journée d'élimination de la violence faite aux femmes. Des mesures qui, sur le papier, sont essentielles, mais encore incomplètes. On regrette surtout l'absence de mesures pour la prise en charge des hommes violents, une problématique qui n'apparaît bizarrement dans aucune des thématiques. En bref, les choses avancent, mais il reste encore beaucoup de travail à accomplir.
Et on passe maintenant à l'international. Avec l'Iran.
Et oui, puisque l'Iran est secoué depuis samedi par de violentes manifestations provoquées par l'annonce d'une hausse des prix du pétrole, une augmentation de 50% pour les 60 premiers litres achetés chaque mois et de 300% pour les litres suivants. 40 personnes ont été arrêtées samedi, l'accès à Internet coupé dans la majorité du pays, les écoles fermées et on déplore des bâtiments et voitures incendiées, des routes bloquées et des tirs à balles réelles meurtriers. Plusieurs personnes auraient perdu la vie dans des affrontements extrêmement violents entre policiers et manifestants. Dans un pays en difficulté économique suite aux sanctions américaines, en proie à un taux d'inflation de 40% et à la chute de sa monnaie, le rial, l'essence est forcément subventionnée et la consommation de carburant très élevée. L'État, lui, annonce qu'il ne tolérera pas l'insécurité et vante les conséquences positives de cette hausse des prix du pétrole, une réforme dont les bénéfices seront distribués aux ménages dits « sous pression économique », soit près de 75% de la population. Il avance aussi le fait que la faiblesse des prix entraîne une contrebande estimée à 20 millions de litres par jour. Les manifestants, eux, n'ont que faire de ces discours. Ils dénoncent une mesure prise par les chefs des trois pouvoirs à quelques mois des législatives de février et remettent également en cause tout le système économique et politique de leur pays. Une manifestation supplémentaire d'une ampleur inédite dans un monde qui s'embrase toujours davantage.
Et on fait le point sur la situation à Hong Kong maintenant, puisque cela fait 5 jours que l'université polytechnique est occupée par des manifestants pro-démocratie, malgré une confrontation avec la police. C'est le plus long affrontement entre manifestants et forces de l'ordre depuis le début de la mobilisation en juin. Depuis le début de l'occupation de l'université, déjà 700 personnes ont été arrêtées en lien avec cette occupation et plus de 200 personnes ont été blessées. Cette action fait réagir à l'international puisqu'hier, le Congrès américain a approuvé une résolution pour soutenir les manifestants, ce qui a engendré une vive réaction de Pékin qui perçoit cela comme une grave provocation. En attendant, les étudiants qui demeurent dans l'université risquent 10 ans de prison et lundi dernier, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté pour alléger la pression sur Polytechnique en attirant la police anti-émeute. Celle-ci, d'ailleurs, s'est dite prête à utiliser des balles réelles contre les manifestants. Nous suivrons donc bien sûr l'évolution des événements de très près. Et Marie, tu nous emmènes au Sri Lanka pour des nouvelles.
Et oui, puisque dimanche dernier, les Sri Lankais ont élu leur président et le résultat du scrutin est extrêmement contesté. C'est en effet Gotabaya Rajapaksa, le frère de l'ex-président, qui a été élu avec 52% des voix. Une victoire nette qui marque le retour au pouvoir du clan Rajapaksa. Un clan adulé par la majorité singhalaise, mais haï et craint par les Tamouls, minorité ethnique que le frère du président élu a violemment réprimée durant la guerre civile sri-lankaise. Les frères Rajapaksa sont été accusés de crimes de guerre. Même si on a signalé des barrages dressés illégalement par l'armée pour empêcher les électeurs tamouls d'aller voter et des tirs menés par des hommes armés sur un convoi de bus transportant des électeurs musulmans, l'élection reste la plus pacifique de l'histoire du pays. Proche de la Chine, le clan Rajapaksa inquiète aussi l'Inde et les Occidentaux et au Sri Lanka, Gotabaya est une figure qui fait polémique. Surnommé « Terminator », cet homme fort a promis de lutter contre la corruption et l'extrémisme islamiste, mais a été rattrapé par son passé politique. Il est accusé d'avoir commandé des escadrons de la mort, ces convois qui ont enlevé et parfois tué des dizaines de tamouls, journalistes et opposants politiques dans les années 2015. Une élection qui est donc riche en enjeux et risque fort d'attiser les tensions dans un pays au rôle clé sur la scène géopolitique asiatique, divisé entre Singhalais et Tamouls et qui a déjà connu une guerre civile meurtrière et une crise politique majeure il y a moins d'un an.
Et aussi, samedi dernier, le New York Times a publié des documents du régime chinois qui rendent indéniable l'organisation de la persécution des ethnies musulmanes par Pékin. Communiqués par un lanceur d'alerte chinois, ces documents mettent en lumière une véritable campagne de harcèlement et d'internement des Ouïghours. des discours inédits du président Xi Jinping, des discours des cadres du parti, des directives et rapports de surveillance des citoyens, aux enquêtes internes, toutes ces preuves démontrent l'existence d'interrogatoires musclés, de séparation de familles, d'endoctrinement des enfants et d'une politique d'hypersurveillance au moyen de drones et de reconnaissance faciale. Et surtout, les documents attestent de l'existence de camps d'internement avec travail forcé et lavage de cerveau pratiqués, camps que Pékin qualifie de centres de formation professionnelle. Ces camps ont concentré entre 1 à 3 millions de personnes ouïghours ces dernières années, et alors que le président Xi Jinping a affirmé que ces documents avaient été utilisés hors de leur contexte, il ne reste plus qu'à espérer une réaction un peu plus vive de la communauté internationale. C'était tout pour l'actualité et on passe sans plus tarder à une revue de presse avec toi, Marie.
T'es sûre qu'on n'a pas un petit billet d'ici, Mathilde ?
Si tu le proposes si gentiment.
Et le mouvement Nuit Debout se poursuit. C'est même étendu ces derniers jours en région.
Tous les sujets seront abordés, il sera mon invité en direct.
La précarité tue, c'est le mot d'ordre du mouvement étudiant tragiquement déclenché par le geste d'Anas, étudiant et militant lyonnais, qui a tenté de mettre fin à ses jours en s'immolant devant le Crous de Lyon le 8 novembre dernier et se trouve toujours dans un état critique à ce jour. « Cette année, je n'avais pas de bourse », rappelle-t-il dans un message posté sur Facebook avant de poursuivre. « Et même quand j'en avais, 450 euros par mois, est-ce suffisant pour vivre ?» Revendiquant un geste politique, l'étudiant accuse nommément, je cite, « Macron, Hollande, Sarkozy et l'Union européenne de l'avoir tué en créant des incertitudes sur l'avenir de tous et toutes ». Fin de citation. Passé la sidération, cet acte terrible interroge, en mettant en lumière les réalités déjà anciennes, de la pauvreté massive de la population étudiante. En France, un étudiant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté et moins de la moitié ont assez de revenus pour couvrir leurs besoins, selon l'Observatoire de la vie étudiante. Une situation que dénonce de longue date Solidaire étudiant, le syndicat auquel appartient Anas, comme le précise sa porte-parole Landine.
La réalité de la pauvreté, de la précarité étudiante, au-delà des quelques chiffres qu'on a pu annoncer, par exemple, c'est au moins 20% d'étudiants, d'étudiantes qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est une réalité de tous les jours de devoir choisir pour environ 50% d'entre eux et elles de ne pas aller se faire soigner pour des raisons en bonne partie de frais. C'est de choisir entre se chauffer et se nourrir. C'est d'enchaîner les petits boulots précaires. Donc c'est toute cette réalité qui rend la vie compliquée aux étudiants et aux étudiantes.
Face à la colère des étudiants et au mouvement de contestation naissant, le gouvernement fait d'abord la sourde oreille. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, ne s'exprime pas depuis le pôle Sud où elle est en visite pendant plusieurs jours. Le secrétaire d'État Gabriel Attal, quant à lui, nie le caractère politique de l'immolation d'Alas devant l'Assemblée nationale. Mais le mouvement s'amplifie, les rassemblements regroupent plusieurs milliers de personnes en quelques jours à Lyon, à Rennes, à Toulouse et à Paris où l'enceinte du ministère est brièvement envahie. Partout en France, des opérations Crous gratuits sont organisées par les manifestants et le 19 novembre seulement, la ministre réagit sur les ondes de RTL.
Alors Frédéric Vidal, les syndicats d'étudiants réclament de revaloriser les bourses. Est-ce qu'il faut donc les augmenter, ces bourses étudiantes ?
Alors en fait, nous venons d'augmenter les bourses étudiantes. Hein. Nous
1,1%.
Nous venons de remettre 46 millions d'euros supplémentaires sur les bourses étudiantes. Et moi, je pense qu'il faut être là dans le pragmatisme et dans l'efficacité. Donc je veux vraiment mettre en place un numéro d'appel, embarquer les organisations syndicales pour qu'elles nous aident à repérer les jeunes en situation de précarité, de manière à ce qu'il y ait une véritable fonds d'aide d'urgence qui puisse être mobilisé par ces étudiants en situation de précarité. Voilà, ça c'est quelque chose de très concret, c'est quelque chose qui peut être fait tout de suite.
C'est pour quand ce numéro d'appel ?
C'est un numéro d'appel qui sera mis en place au plus tard à la fin de l'année.
La mise en place d'un numéro d'appel semble pourtant bien mince et déconnectée face à la violence de la réalité, comme le rappelle encore Blandine, porte-parole de Solidaires étudiantes.
Alors nous, cette réaction du gouvernement face à la question de la précarité étudiante, et d'autant plus depuis ces 10 derniers jours que notre camarade a tenté de s'immoler dans le Crous de Lyon, c'est le seul qualificatif qui nous vient, c'est indécente. Ne rien dire d'un étudiant qui en arrive à ce niveau de détresse du fait de sa situation de précarité, mais par contre s'indigner immédiatement d'une grille de ministère dégondée, même pas spécialement habillée. C'est une ministre qui décide de faire des annonces avant même de nous recevoir, tout en disant que ces annonces sont concertées. Ce sont des annonces aussi qui sont tout à fait ridicules. Mettre en place un numéro vert, ça ne va rien changer.
Et c'est donc dans ce contexte que s'est réunie cette semaine une intersyndicale étudiante d'une rare ampleur, regroupant l'UNEF, Solidaires étudiants, la Jeune Fédération syndicale étudiante, les syndicats indépendants de l'Alternative et même la très consensuelle FAGE, toutes ces organisations ayant établi une liste de revendications publiée dans un communiqué commun ce mercredi 20 novembre.
Et donc, des revendications, bah, on est en deux temps sur un plan d'urgence parce que voilà, la situation est catastrophique. On demande une revalorisation d'au moins 20% des bourses étudiantes, l'augmentation du nombre de logements en cité universitaire pour accueillir au moins 10% d'étudiants et d'étudiantes en logement CROUS, le gel puis la baisse des loyers en cité universitaire et l'application de baux tels que ceux des HLM pour permettre de mettre en place une trêve hivernale, ce qui n'est pas le cas actuellement. L'encadrement des loyers dans toutes les villes en tension, parce que les étudiants et les étudiantes vivent majoritairement dans les grandes villes, et ces grandes villes sont des lieux où les loyers sont souvent bien trop élevés. Puis des moyens financiers humains pour les services de santé universitaires et les CROUS, parce que si on se retrouve dans des situations parfois très difficiles, c'est aussi parce que ces institutions sont sous-financées. Le gel du ticket de resto-U, la prise en charge de l'État à plus de 50%, parce que c'est pareil, c'est le budget de nourriture pèse beaucoup dans le budget d'un étudiant ou d'une étudiante. Et puis des revendications vis-à-vis des étudiants et des étudiantes étrangers et étrangères, c'est-à-dire les mêmes droits pour tous et toutes, sans discrimination d'âge ou de nationalité. Donc ça veut dire mettre fin à la loi Bienvenue en France qui instaure des frais différenciés, et puis que l'inscription à l'université équivale au droit à une carte de séjour de manière effective. Puis à plus long terme, on demande une construction massive dans les sites universitaires, la restauration de l'ensemble des logements insalubres, l'ouverture de nouveaux centres de santé universitaires avec des vrais moyens pour pouvoir accueillir les étudiants et les étudiantes immédiatement, et puis que l'État assure des conditions matérielles dignes à tous les étudiants et les étudiantes.
On l'entend, ce n'est pas le travail qui manque une fois que le numéro vert sera mis en place. Enfin, une journée de mobilisation nationale est annoncée contre la précarité étudiante dans le même communiqué. Elle est appelée pour le mardi 26 décembre, avant le début d'un mouvement contre la réforme des retraites qui débutera le 5 décembre et s'annonce d'ores et déjà massif, le gouvernement ayant visiblement décidé de laisser, comme le veut le slogan, les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère.
Journal radiophonique amplifié de Transistor, en direct avec vous jusqu'à 21h. Attention à vos oreilles.
Merci Rémi pour ce billet d'ici nécessaire. Et on passe cette fois-ci c'est vrai, à la revue de presse avec toi Marie qui va nous parler de Misérables.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Eh bien, à la une des journaux d'aujourd'hui, d'abord un film, Les Misérables de Ladjili, une plongée réussie et incandescente au cœur des banlieues françaises, et ensuite des gens, ces hommes et femmes dont on parlait trop peu et qui expriment aujourd'hui leur colère à corps et à cris. Alors, inspiré par Hugo et par la presse du jour, on peut ce soir parler des misérables. Du film d'abord, mais aussi de ces personnes que l'on réduit trop souvent sans ménagement au rang de misérables et de laissés pour compte, mais qui sont bien plus que ça, car n'oublions pas que Les Misérables, le roman d'Hugo, est avant tout une œuvre qui parle de colère et de points levés, d'humain et d'avenir, de la société française et de l'histoire, des thèmes encore à la une de la presse de notre temps.
Eh bien, quel programme et quel est le chapitre 1 de cette revue de presse alors ?
Eh bien, parlons d'abord des misérables du film que l'on retrouve dans toutes les pages des journaux aujourd'hui. Pour Le Monde, c'est un long métrage à l'énergie vitale et à valeur d'avertissement pour notre société. Les journalistes de La Croix, eux, saluent un film d'une puissance explosive et d'une justesse sidérante qui brûle, je cite, d'une matière inflammable, un film coup de poing qui refuse le manichéisme pour la complexité et la nuance. Et dans le Figaro, c'est toute une chronique que consacre le maire de Montfermeil, Xavier Lemoine, au long métrage de Ladli. Son ambition dans ces lignes, montrer qu'il est de notre responsabilité de faire voir le film pour que tous, je cite, « comprennent que c'est la paix civile qui se joue ici ». Et le chroniqueur de saluer un film puissant, juste et vrai. Puissant par une technique cinématographique qui sert magnifiquement le sujet traité, vrai car le point de départ du film est la bavure policière dont a été témoin le réalisateur en 2006. Une prise de conscience brutale et salutaire, mais qui, attention tout de même, nous dit l'auteur, ne doit pas être gâchée par des commentaires qui, je cite, « exacerbent la victimisation et font croire que rien n'a changé ». Car oui, nous dit le maire, des solutions sont possibles et il en distingue trois. D'abord, redonner par la qualité de l'urbanisme de la dignité aux habitants. Ensuite, mettre en œuvre une politique volontariste d'apprentissage du français pour donner à tous les clés de compréhension de notre société. Et enfin, poursuivre la réforme des politiques éducatives et sociales de la petite enfance à l'âge adulte pour assurer une exigence cohérente. En bref, il faut faire connaître, respecter et aimer notre pays plutôt que de favoriser la complaisance pour tout ce qui dénigre et culpabilise la France.
Et des solutions sont possibles, mais est-ce qu'elles sont vraiment efficaces ?
Eh bien, à en croire le dossier de l'Obs, pas toujours, loin de là. Les journalistes du magazine sont en effet retournés à La Noé, la cité de Chanteloup-les-Vignes où a été tourné La Haine, le film coup de poing de Mathieu Kassovitch. Ils y ont rencontré les messagers, des jeunes salariés d'une entreprise d'insertion créée il y a 25 ans, jeunes qui ont contribué à faire le lien entre les habitants de la cité et les équipes du film.
Et que sont devenus alors ces messagers ?
Eh bien, des hommes désillusionnés qui se sentent bernés par des politiques qui ne les écoutent plus. L'un a 43 ans, trois frères décédés et une balle reçue à la jambe, et déplore des postes réservés à ceux qui arrivent de l'extérieur. Moula, lui, dénonce la loi du plus fort qui a supplanté le respect, et des élus qui écoutent trop peu des habitants vus comme ennemis plutôt que comme partenaires. Et Nordine, lui, fustige un monde où, je cite, « on conditionne les enfants à remplacer leurs parents ouvriers ». Une enquête édifiante qui montre l'ampleur du travail qu'il reste encore à accomplir.
Et il y en a d'ailleurs certains qui se demandent aussi ce qu'il leur reste à accomplir, non ?
Eh bien oui, parlons-en justement de ces gilets jaunes qu'on a longtemps considérés comme misérables et indignes d'attention, mais qui veulent désormais échapper à cette invisibilité humiliante. Politis leur consacre cette semaine un numéro spécial dans lequel on donne la parole à ceux qui se sont révoltés et sont prêts à continuer le combat. Marre d'attendre les élites, on veut prendre le contrôle de nos vies, nous débrouiller, disent ceux qui ont fondé la Maison du Peuple à Nantes dans un collège désaffecté qu'ils ont transformé en centre social autogéré. On en a marre que le gouvernement nous considère comme des pions chargés de mettre en place sa politique, lancent les maires qui se sont investis dans le mouvement. Des remarques décortiquées par François Cusset et Laurent Jean-Pierre dans les pages du magazine. Pour le premier, les Gilets jaunes expriment avant tout un désir de faire corps collectif. Pour le second, le mouvement a participé à une relocalisation du politique. Les Gilets jaunes sont désormais partie prenante des investissements locaux et des engagements citoyens à petite échelle. Et les deux s'accordent sur un point. Le participatif, entendre ici grand débat, et le répressif, comprendre CRS et Lacrymo, sont liés. Pourquoi ? Eh bien parce que conjuguer les deux permettrait de diviser la population, d'affirmer qu'il y a d'un côté ceux qui acceptent de discuter et de l'autre ceux qui restent dans la rue, les antidémocrates. Hugo le disait déjà il y a un siècle, c'est que la révolution ne peut être vraiment vaincue.
Une analyse intéressante, mais je crois qu'il n'y a pas que les Gilets jaunes qui ont pris la casquette de misérables récemment.
Et non, dans les journaux du jour, on parle bien sûr précarité étudiante, et comme le cas des Gilets jaunes, les analyses ne manquent pas. Nous citerons seulement ici cet article du Monde diplomatique dont le titre interpelle. La précarité tue, le capitalisme tue, le macronisme tue. De France Télécom à Lubrizol, en passant par la SNCF et récemment ANAS, le capitalisme tue, nous dit Frédéric Lordon. Et souvent en différé, car c'est bien plus commode pour effacer les traces. Car oui, qui va faire le lien entre les travailleurs suicidés et les services publics massacrés au nom des traités européens ? Qui va faire le lien entre des cas de cancer à Rouen et l'explosion d'une bombe chimique dans la ville ? Entre le désespoir d'un étudiant et les grandes orientations de la politique économique ? Car oui, pour l'auteur, les deux sont liés. Et ce qu'il y a de nouveau avec l'immolation d'ANAS, c'est qu'elle est entièrement politique, car les responsables sont désignés par la victime même qui a compris quelles étaient les causes de sa souffrance. Nous vivons, je cite, dans un monde où tout est voué à être détruit, mais dans lequel les démolisseurs, connus aussi sous le nom d'élite, ne font rien pour empêcher cette destruction, voire en jouissent. Et comme la violence de ces politiques capitalistes criminelles est injustifiable, alors rien ne peut expliquer que l'on continue à les tolérer. Un article à charge qui se termine par un rappel efficace, on n'arrête pas les violents avec des fleurs.
Pas de fleurs alors, mais quelle perspective pour l'avenir ?
Eh bien, c'est une question que se posait aussi l'auteur des Misérables. Pour Hugo, l'histoire est un épanouissement du genre humain, une marche messianique vers le progrès. Et il est partout, en effet. Ce progrès auquel on voue parfois un culte aveugle. Ce progrès devenu le credo d'une humanité désespérée qui ne croit plus au présent. Dans Courrier International cette semaine, on parle de méthodes qui permettraient de vaincre la vieillesse. La médecine régénérative pouvant réparer les organes ou les lésions à l'aide de cellules souches capables de se renouveler. Mais aussi les sénolytiques permettant de chasser les cellules altérées présentes dans les tissus sains. Et dans Libération, on consacre un dossier aux algorithmes qui pourraient prédire notre avenir. À Durham en Angleterre, le logiciel ART analyse des données pour prévoir si une personne ayant déjà été arrêtée va récidiver en se basant sur 33 indicateurs, dont le casier judiciaire, l'âge et le code postal. Un système coûteux qui rappelle l'expérience du logiciel Compass aux États-Unis. Seuls 20% seulement des personnes devant récidiver d'après le logiciel l'avaient effectivement fait, et les personnes noires risquaient plus d'être identifiées à tort comme les futurs criminels. En article aussi, le progrès est là, on parle même de ressusciter le mammouth laineux dont l'ADN dégèle en même temps que le permafrost.
Oui, un progrès qui est donc bien loin de ce grand idéal dont nous parlait Hugo.
Exactement. Alain Damasio rappelle dans Le Point et lors du festival Futurapolis à Strasbourg, chaque fois qu'Amazon crée un emploi, il en tue deux. Et Philippe Biwix le redit dans les pages de Libé, la technologie salvatrice n'est rien d'autre qu'un mythe. Heureusement, il y en a quelques-uns qui nous font croire en la possibilité d'un avenir un peu meilleur, comme la start-up auvergnate Carbios. Aujourd'hui, 70% des déchets en plastique ne sont pas recyclés, faute de technologies efficaces. Carbios a donc développé un procédé à base d'enzymes permettant de déconstruire les plastiques usagés afin de les réutiliser pour produire du plastique biodégradable ou recyclable.
Et le mot de la fin ?
Eh bien peut-être, agissons et choisissons d'y croire et favorisons notre vision du progrès, un progrès plus juste et plus durable. Hugo l'écrivait dans Les Misérables, l'âme ne se rend pas au désespoir sans avoir épuisé toutes les illusions.
Merci Marie.
Radiophonie amplifiée
sur Transistor. Et on passe tout de suite avec toi, Adèle, à l'édito politique. On va t'écouter et tu vas nous parler d'un procès, celui du groupe Lafarge, qui a connu des rebondissements récemment.
Tout à fait, Mathilde. Alors, pour rappel, en novembre 2016, les associations Sherpa et le European Center for Constitutional and Human Rights, aussi appelé ECCHR, aux côtés de 11 anciens salariés syriens de l'entreprise, avait déposé plainte contre Lafarge pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui, financement de terrorisme, violation d'un embargo et surtout complicité de crimes contre l'humanité. Au tout début du mois de novembre, la justice a confirmé cette mise en examen, mais elle a annulé le chef de complicité de crimes contre l'humanité.
Oulala, mais ça fait beaucoup tout ça.
Et pourquoi tous ces chefs d'accusation ?
Eh bien, de 2012 à 2015, la filière syrienne de Lafarge a continué de fonctionner. Pour cela, elle a organisé un système de financement des groupes armés locaux, dont l'État islamique, pour poursuivre ses activités. On estime aujourd'hui ce financement à hauteur de 13 millions d'euros. L'entreprise est également poursuivie pour avoir laissé ses employés continuer de travailler sans assurer leur sécurité en zone de conflit.
Ok, c'est très bien tout ça. Et en quoi est-ce que tu pourrais nous expliquer que c'est politique ?
Non, ce qui est très politique, c'est le choix de la justice d'avoir décidé que l'entreprise ne serait pas poursuivie pour crimes contre l'humanité. C'est vrai que ça paraît énorme comme chef d'accusation, mais ce sont les Nations Unies elles-mêmes qui ont estimé que les actions de Daesh constituaient un crime contre l'humanité et que, de fait, toute subvention ou participation est une complicité. Alors, quelle différence est-ce que ça fait de retirer ce chef d'accusation ? C'est très simple. Le financement du terrorisme, c'est un délit, mais la complicité de crimes contre l'humanité, comme son nom l'indique, c'est un crime. Et c'est donc puni bien plus sévèrement. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important d'aller au pénal ? D'une part, parce que ça a beaucoup plus d'impact, notamment sur les investisseurs, ce qui est l'un des moyens les plus efficaces de faire peur aux entreprises. Aujourd'hui, on estime que ce sont 65% des multinationales françaises qui sont impliquées dans des affaires de non-respect des droits humains à échelle de la planète. C'est bien la preuve que les mesures actuelles ne suffisent pas et qu'il est urgent d'en trouver de nouvelles, et surtout des plus efficaces.
Et quel type de mesures, justement ?
Alors, il existe une loi, déjà, qui permet d'aller dans ce sens. Elle date de 2017 et s'appelle la loi sur le devoir de vigilance. C'est une loi d'encadrement des multinationales qui vise à imposer un devoir de vigilance, comme son nom l'indique, des sociétés mères vis-à-vis de leurs filiales ou de leurs sous-traitants à l'étranger. Elle doit permettre de prévenir les atteintes aux droits humains et à l'environnement en stipulant que la responsabilité de ces entreprises mères pourra être engagée devant le juge. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Lafarge. Comme c'est la maison mère qui a financé la filiale syrienne qui elle-même a financé les groupes armés, c'est la maison mère qui doit être tenue responsable. et au-delà de la maison mère, ce sont aussi ses dirigeants. La plainte est déposée contre l'entreprise, mais elle vise aussi 8 de ses cadres dirigeants, dont deux ex-PDG. Cette mise en examen des personnes responsables est très importante et assez novatrice, car elle permet la fin d'une justice à deux vitesses, où des personnes qui ont consciemment décidé de ces actes ne sont pas inquiétées, tandis qu'une amende, qui représente souvent très peu pour elle, est infligée à l'entreprise.
Waouh, et cette loi, elle date de 2017, on est vraiment super en retard. Ça se passe comment dans les autres pays ?
Ce qui est encore plus fou, Mathilde, c'est qu'en fait, la France est pionnière dans ce domaine.
C'est fou.
En fait, les multinationales ne sont pas des sujets juridiques selon les lois internationales. Elles relèvent de la législation de leur pays d'origine, et c'est pour ça qu'elles peuvent agir impunément par le biais de leurs filiales si le pays où se situent ces mêmes filiales a une législation moins contraignante vis-à-vis des droits de l'homme ou tout simplement n'a pas les moyens d'avoir des juridictions fonctionnelles, comme c'est le cas de la Syrie par exemple. Et bien ce vide juridique, la France est le seul pays à avoir commencé d'essayer de le combler par la loi sur le devoir de vigilance dont l'équivalent n'existe nulle part ailleurs. Le chemin reste long pour que le reste des pays, mais aussi les organisations internationales, se donnent les moyens de s'attaquer véritablement aux agissements des multinationales.
Merci pour cet éclairage, Adèle.
Le journal radiophonique amplifié
sur Transistor.
Il est 20h35, c'est plus que l'heure de retrouver Elliot, notre nouvelle recrue du GRA, pour parler économie.
Tout à fait, Mathilde. Et il y a tout juste un mois, nous apprenions que le prix Nobel d'économie, ou le prix de la Banque de Suède pour les puristes, était décerné aux Américains Barnegie, Kramer et, au joie, à la Française Esther Duflo pour ses travaux concernant la lutte contre la pauvreté. Elle est professeure au MIT, détentrice d'une chaire au Collège de France et la seconde femme à recevoir ces distinctions. Si le prix consacre la reconnaissance de l'économie du développement et de la lutte contre la pauvreté au sein d'une discipline où elle demeurait longtemps marginale, il est surtout le témoin d'un renouvellement méthodologique de l'économie. Ce qu'il faut souligner n'est pas seulement le sujet de leur recherche, mais leur méthode commune, l'expérimentation aléatoire. Alors certains diront rien de neuf, les expérimentations pionnières utilisant cette méthode en économie datent en effet des années 20. Et cependant, ce sont bien ces trois chercheurs qui ont contribué à sa popularisation et sa légitimation.
Et du coup, Elliot, en quoi elle consiste cette méthode ? Est-ce qu'elle est révolutionnaire au point de mériter un prix Nobel ?
Alors, c'est effectivement son principe même qui la rendrait révolutionnaire, puisqu'elle entraîne un changement de nature de l'économie. On passerait d'une science sociale à une science expérimentale, bref, une science dure. Les travaux d'Esther Duflo s'ancrent ainsi dans une approche qui met l'accent sur l'identification de liens de cause à effet. On va s'inspirer, voire on va imiter, les méthodes utilisées en médecine et en biologie pour les appliquer à l'économie. Je cite Esther Duflo, « Les politiques de lutte contre la pauvreté sont évaluées avec la rigueur des essais cliniques. » Et donc c'est parlant. Le but de ces expérimentations est donc de trouver le moyen d'avoir les meilleurs résultats en fonction d'objectifs donnés, si possible en minimisant les coûts, afin d'améliorer l'efficacité des fonctions publiques, des politiques publiques, pardon. Donc concrètement, comment ça fonctionne ? Eh bien, on constitue deux groupes de population, un groupe test, auquel on applique une mesure de politique publique, et un groupe témoin, qui n'en bénéficie pas. L'important réside dans la randomisation, c'est-à-dire que les deux groupes sont constitués au hasard. Et j'insiste sur cette idée de randomiser. Statistiquement parlant, c'est ce qui assure la fiabilité des résultats ou leur scientificité. Pourquoi, me direz-vous ?
Et pourquoi constituer des groupes au hasard ? Est-il plus pertinent en sciences expérimentales ?
Excellente question, Mathilde.
Toujours.
Premièrement, cela enlève le biais de sélection. Il y a une probabilité très faible pour que les deux groupes présentent une différence significative qui affecterait le résultat. Et deuxièmement, elle oblige le chercheur à se conformer aux règles de la méthode expérimentale, émettre des hypothèses, construire les groupes, observer les résultats, et non pas construire les groupes en fonction des résultats, ce qui pose des problèmes de méthode. Prenons un exemple. Je le tire de l'une des 400 expériences qui ont été menées par le laboratoire d'Esther Duflo et ses associés pour fonder le combat contre la pauvreté sur des preuves scientifiques. En 2015, des chercheurs ont voulu évaluer l'efficacité du dispositif des internats d'excellence en France. Créé en 2008, ce dispositif vise à améliorer la réussite scolaire d'élèves défavorisés en misant sur un accompagnement renforcé. Pour mener leurs expériences, les chercheurs ont choisi un de ces établissements est divisé les nouveaux entrants en deux groupes, ceux qui ont été retenus pour bénéficier du dispositif, les internes, notre groupe test, et ceux qui suivront leur scolarité dans le même établissement scolaire, mais hors de l'internat faute de place, notre groupe témoin. L'attribution d'une place au sein de l'internat d'excellence est faite par tirage au sort parmi les populations éligibles, donc le résultat de l'expérience est mathématiquement probant puisque la randomisation est respectée. Autrement dit, les populations des deux groupes étant choisies de façon aléatoire, les caractéristiques individuelles n'influent pas sur les conclusions, et les différences entre le groupe test et le groupe témoin ont donc directement pour cause le dispositif d'internat d'excellence. Donc les élèves ont été suivis pendant près de 3 ans et l'équipe a démontré que ce dispositif permettait d'améliorer le niveau en maths des élèves bénéficiaires, mais pas celui de français où aucune différence n'a été constatée entre les deux groupes.
Alors cette approche, elle semble très probante. Pourtant, je suppose qu'il ne faut pas jeter le reste de l'économie à la poubelle, non ?
Eh bien non, tu as raison, ce serait injuste. Car aussi intéressante soit-elle, cette méthode n'est pas sans défaut et ne représente qu'une faible part de la recherche en économie, bien que grandissante. Tout d'abord, elle présente un écueil théorique. Ces expérimentations prennent corps dans des contextes locaux. Leurs résultats sont donc valides à un moment donné dans un lieu fixé, mais leur généralisation est scientifiquement douteuse et l'application à des politiques publiques étatiques est donc compromise. Ensuite, une difficulté pratique. On constate fréquemment un décalage important entre le protocole et son avatar de terrain. La rigidité et la standardisation de la méthode s'accordent mal avec la diversité du social, des législations et tout simplement des acteurs, obligeant souvent à modifier le protocole en cours d'expérimentation. Alors est-ce que l'économie doit dorénavant se focaliser sur la méthode expérimentale afin d'assurer sa scientificité ? Le débat est ouvert. Le débat est parfois virulent même. Mais ce qu'il nous faut retenir de cette nomination d'Esther Duflo, c'est que la science économique s'appuie sur des faits et qu'elle est au service des gens.
Merci Elliot pour ce premier billet économique. Et il est 20h40, c'est pile poil l'heure de passer avec Arthur à la notion pourrie.
Journal radiophonique amplifié, la notion pourrie avec Arthur.
Et donc aujourd'hui, Mathilde, je vais revenir sur un vieux truc, notre propre classe. Je vais parler bien sûr des intellectuels. Pourquoi j'en parle ? C'est tout simplement parce qu'il y a eu, il y a quelques semaines, c'est un petit peu vieux, un dérapage sur LCI, sur une émission où étaient invités de nombreux intellectuels, d'Alain Finkielkraut, qui décide de dire, à la fin, énervé par les accusations de la féministe Caroline De Haas, « Mais ma femme, je la viole tous les jours, je dis aux hommes, violez les femmes », de façon très ironique. On a commencé à se poser la question, mais a-t-on besoin d'inviter ce vieux grabataire qui ne semble pas comprendre les enjeux du débat sur chaque plateau ? Et ça amène pour moi à s'intéresser sur qui considère-t-on comme intellectuel et pourquoi les invite-t-on ? Si on observe le débat public actuel, il y a trois types, on pourrait dire, d'intellectuels ou de ce que les grands médias appellent les intellectuels. Des semi-éditorialistes, à savoir des gens qui parlent bien, qui sont relativement cultivés par rapport à la moyenne des journalistes et qui peuvent apporter, comme à la Finkielkraut, un certain buzz s'ils dérapent. C'est des intellectuels que l'on met en avant parce qu'ils sont bons clients, dans le sens que, tout simplement, ils ramènent beaucoup de clients. Et en même temps, il y a des chances qu'ils parlent bien à la télé. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler des intellectuels identitaires, c'est-à-dire des gens qu'on va amener parce que l'on sait parfaitement qu'ils représentent un camp. On va aussi bien, lorsqu'il va falloir parler de néolibéralisme, on va inviter Agnès Verdier-Molinier, tandis que si on va décider de parler d'économie de gauche, on va inviter Thomas Porcher. Et enfin, il y a le troisième type, qui est en fait le dernier type d'intellectuel qui, entre guillemets, subsiste depuis les années 70, d'après sa définition depuis Foucault, l'intellectuel spécifique. À savoir que dès qu'il y a une question, dès qu'il y a un problème, on va inviter cette personne parce qu'il est spécialiste dans cette question. Et c'est pour ça que de nombreux économistes ont pu envahir, à partir des années 90, la sphère publique. Et en fait, actuellement, il faut qu'on se pose la question de quel type d'intellectuel a-t-on besoin ? Parce que le fait est, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on a une multiplication de la parole, forcément. Et les mass médias n'arrivent pas à comprendre ce phénomène. Donc les intellectuels peuvent servir alors de caisse d'écho identitaire, et donc c'est le choix plutôt de l'intellectuel type identitaire, quitte à essayer de faire un écrémage. Parce qu'on ne peut pas mesurer le raffinement d'un Alain Finkielkraut par rapport à Frédéric Lordon, même s'ils sont tous les deux, ils représentent tous les deux un camp spécifique. Ou soit on décide alors d'avoir un intellectuel spécifique, un intellectuel spécialiste qui impose un effet d'autorité pour pouvoir contrôler le débat ou pour pouvoir le centraliser sur quelque chose. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que dans ce système, le troisième type, l'intellectuel semi-éditorialiste, celui dont fait partie Finky, en fait, parce que si on invite Finkielkraut, c'est pour ses dérapages, c'est pour ses pauvres connes, gna 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 gna. Cette dernière partie est en tout cas mortifère, pourrie, et consiste surtout à faire grandir le nombre de réactions et finalement beaucoup moins à centraliser le débat qu'à le diviser.
Vous êtes à l'écoute du journal radiophonique amplifié sur Transistor, radio conçue comme son propre fondement, jusqu'à 21h.
Et c'est toujours un plaisir d'entendre cette voix. Alors Arthur, tu nous as présenté ta notion pourrie, tu nous as parlé des intellectuels pourris, et moi je profite de la transition de la demi pour vous parler d'un salon pourri. Oui, vous savez, il y a le salon de l'agriculture, celui du chocolat, celui des grosses voitures et des mannequins au ventre plat. J'ai appris aujourd'hui dans un article de Reporter qu'il existait aussi le salon Millipol, le salon mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des États. Entendez donc un espace dédié pour tester des gilets pare-balles, des lanceurs de balles de défense et des dispositifs de reconnaissance faciale. C'est Christophe Kasnaner qui a inauguré le salon mardi dernier, présentant la violence dans le maintien de l'ordre comme une des menaces fortes auxquelles doivent faire face la France et ses alliés. Les visiteurs accrédités ont encore jusqu'à demain pour découvrir les grenades lacrymo dernier cri. Un cri, c'est bien ce qu'on a envie de pousser quand on pense à cette foire aux futures mutilations. Et on passe tout de suite à des sardines, un sujet beaucoup plus réjouissant avec toi, Clément.
Et oui, parce que la fin du mois de novembre voit éclore partout en Italie un archipel des sardines. Rien n'est dû au hasard. Les sardines, ce sont des opposants à Salvini, l'ex-ministre de l'Intérieur, qui ont décidé d'appeler à des rassemblements au cours de chaque meeting du leader d'extrême droite en campagne électorale permanente.
Mais pourquoi s'appeler les sardines? Pourquoi une mobilisation de cette forme?
Eh bien déjà, parce qu'en Italie, on ne connaît pas Patrick Sébastien, et inutile de demander, je ne mettrai pas la musique.
Ah, c'est dommage, on est tous déçus en studio.
Je sais. Sans plaisanter, les sardines sont toutes ces personnes qui vont se serrer au fond des places italiennes pour dire non à Salvini. Et comme l'explique le journal Repubblica, ce sont des poissons qui semblent inoffensifs et sans défense, mais qui ensemble font bloc et s'opposent à leurs prédateurs. Et puis la sardine, dans un pays méditerranéen comme l'Italie, c'est un symbole fort qui représente une mobilisation déclinable sur toute la péninsule du nord au sud et de l'Adriatique à la côte tyrrhénéenne. Alors la mobilisation a été lancée le week-end dernier sur les réseaux sociaux, ce qui est très symbolique parce que ceux-ci ont toujours été un pilier de la stratégie de Salvini et de l'extrême droite. Alors le terrain est-il repris par la création de multiples groupes Facebook qui peuvent avoir de quoi inquiéter l'ex-ministre de l'Intérieur ? Ce ne sont en effet pas, a priori, les partis de gauche ou le parti démocrate centriste qui sont à la manœuvre, ce qui rend la contestation plus insaisissable et moins facile à disqualifier. 16 000 personnes étaient ainsi dans les rues à Bologne jeudi dernier, 7 000 à Modène lundi soir, deux villes qui sont des symboles forts puisque ce sont les traditionnelles places fortes de la gauche et un objectif de Salvini aux élections régionales de janvier 2020.
Ok, qui est à l'origine de la contestation? Qu'est-ce que ça va changer?
Alors, à l'origine, sont quatre trentenaires de gauche, hors des partis politiques. Ils ont créé un groupe Facebook qui a, depuis le début de la semaine, connu un développement très fort et fait beaucoup d'émules. Évidemment, une contestation de ce type est une réponse forte face à un Salvini qui a fait sienne la méthode populiste de communication directe avec la population et est devenu la bête des réseaux sociaux. Les difficultés du Parti démocrate en font un parti peu lisible, peu capable de mobiliser les foules, et l'Italie en est à un stade encore plus avancé que la France en ce qui concerne l'expression d'un racisme, d'une islamophobie, d'un antisémitisme, chaque jour plus décomplexé et légitimé par les politiques. Alors, même si la réaction dans les rues n'est pas à l'initiative de militants chevronnés, ça ne veut pas dire que tous ne se retrouvent pas dans les rues parmi les sardines du Parti démocrate aux alternatives des centres sociaux. Cependant, il serait pour le moins prématuré de dire que l'émergence de ces sardines représente un tournant pour Salvini, d'abord parce que sa communication ne s'est jamais arrêtée et s'affaire d'ailleurs déjà à discréditer ses nouveaux opposants aquatiques. Alors, et donc, Salvini fait bien preuve d'un humour débordant dans son attaque à ses opposants, qui ne masque pas la triste réalité d'une vie politique transalpine polarisée par les idées d'extrême droite. Même si la droite n'est plus au pouvoir, difficile pour l'instant de voir une alternative à une prise de pouvoir des partis néofascistes aux prochaines élections. La campagne électorale permanente de Salvini et l'émergence peut-être éphémère, peut-être durable des sardines, mouvement où les citoyens prennent le pas sur l'organisation partisane, sont des symptômes d'une décomposition d'un monde politique qui a pourtant été au XXe siècle l'un des plus riches et des plus foisonnants. Mais la forte mobilisation des Italiens à chaque meeting d'extrême droite, même s'il y a une mobilisation contre et pas pour un projet, démontre que malgré les apparences, toute l'Italie ne cède pas aux sirènes néofascistes.
Merci Clément pour cette petite touche d'espoir.
Il giornale radiofonico dell'amplificazione.
Sur Transistor.
Et sur Transistor, c'est l'heure du sport.
doit être entraînant.
Oui, mais là, ça pique.
Respectez ! Pas faire de faute ! Pas faire de faute !
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud ! La traverse.
Et on s'envole tout de suite en Espagne, à Madrid, où la France vient d'être éliminée cet après-midi de la Coupe Davis par la Serbie de Novak Djokovic.
La quoi ?
Alors la Coupe Davis, ou plutôt la Coupe Davis en deux mots, car c'est actuellement la première édition de cette nouvelle formule de ce qu'on pourrait appeler la Coupe du Monde des Nations du Tennis, qui se déroule devant un public d'environ 100 personnes, absolument pas conquise du tout. En effet, les grandes instances du tennis, et notamment Gérard Piqué, qui oui est un footballeur, ont voulu réformer l'épreuve et la raccourcir pour passer d'un format sur une année avec des ambiances à domicile surchauffées à une épreuve en une semaine avec des tribunes aussi garnies que pour un Montauban-Vierzon en badminton. Malgré les dotations très importantes, de nombreux joueurs, grands joueurs ont refusé de participer tout simplement pour des raisons physiques, pour ne pas allonger une saison déjà très longue. Et oui, les performances physiques, ça ne s'achète toujours pas, n'en déplaise au PSG.
Quel rapport avec le PSG ?
Aucun. Et c'est d'ailleurs pour cela que je tiens à vous signaler la très belle victoire d'Amiens hier sur Bordeaux par 3-2, ce qui permet à Amiens de prendre la troisième place de la Ligue Magnus, devant les Dragons de Rouen, mais encore loin derrière les Brûleurs de Loups de Grenoble.
Attends, c'est quoi la Ligue Magnus ?
Ben voyons, c'est du hockey là. C'est plutôt des Français qui essayent de jouer avec la crosse, mais fax pas un garçon. Du côté de nous autres, Canadiens de Montréal, on est toujours 5e de la conférence ouest de la NHL, mais c'est pas pire, mais c'est correct quoi. Puis surtout, on est rendu au sport olympique d'hiver, Christ de la semaine, le hockey artistique. Alors, c'est pas un sport où on est supposé avoir de la misère, mais il faudrait quand même pas niaiser avec la puck, puis qu'il suffit de trouver 12 chums pour faire deux équipes de 6 qui s'en vont s'affronter sur la patinoire, avec le but de scorer le plus possible. Fait qu'il y a juste une petite contrainte, c'est pas un tout compliqué, c'est juste que si tu danses comme un ballet, tu vas pas capoter, mais du coup, à chaque interruption de jeu, qu'on doit réengager le puck dans le jeu, chaque équipe est supposée improviser une petite danse, puis c'est le public qui vote pour savoir qui c'est qui remporte l'engagement. Fait qu'il n'y a plus qu'à.
Waouh, super accent québécois, j'admire.
Le journal radiophonique amplifié
sur Transistor.
Il est 20h50, on sort de la cour de récréation et on reprend le chemin de l'école avec Arthur.
Journal radiophonique amplifié sur le chemin de l'école avec Arthur.
Et Arthur, tu vas nous parler de la réforme du lycée professionnel.
Eh oui, chers auditeurs, vous connaissez le lycée général pour y être passé, mais connaissez-vous le lycée professionnel vers lequel sont orientés un quart des élèves de 3e ? La réforme de la voie professionnelle de 2019, adoptée lors du passage de la loi de l'école de la confiance, la bien nommée, a chamboulé la filière professionnelle. La voie pro en sort fragilisée et précarisée. L'organisation du lycée professionnel et la pédagogie qui y sont déployées visent désormais seulement à l'employabilité rapide des élèves. Or, les formations professionnelles devaient reposer à l'origine sur la tension entre la fabrique d'individus aptes à s'incorporer dans la machine économique et la transmission d'une culture émancipatrice et de savoirs qui valent pour eux-mêmes. Cependant, les effets inégalitaires de la concurrence, la mutilation culturelle introduite par la logique des compétences et la précarisation croissante du monde enseignant révèlent toute la perte d'autonomie de l'école par rapport aux luttes des classes sociales autour de l'enjeu scolaire. Aujourd'hui, avec la réforme de 2019, le lycée professionnel est fortement menacé de se réduire à la seule formation du capital humain nécessaire aux entreprises. Les heures des matières générales, français, mathématiques, histoire-géo, langue vivante, sont drastiquement réduites. Et les postes ouverts au concours des professeurs de lycée professionnel sont par conséquence diminués. À mon sens, les savoirs, les professeurs et l'institution scolaire devraient obéir à des normes spécifiques, irréductibles aux normes du marché et bannir toute logique de compétitivité. Or, les savoirs délivrés en lycée professionnel sont transformés de l'intérieur même du système scolaire, ce qui n'est pas encore le cas en lycée général. Toute connaissance devient marchandise. Elle n'existe plus que dans la mesure où elle produit compétences et innovations utiles à la production. Les programmes scolaires évacuent par conséquence les savoirs risquant de ne pas être rentables. Concrètement, les recommandations des bulletins officiels du ministère de l'Éducation nationale préfèrent la rédaction du curriculum vitae à la découverte des textes littéraires. La multiplication des stages pour les élèves laisse entendre que le seul véritable lieu de formation serait l'entreprise et non l'école. La conséquence est aujourd'hui assumée par la nouvelle loi du ministre Blanquer. L'école doit se conformer aux normes de fonctionnement de l'entreprise. Dès lors, comment agir pour l'émancipation de l'individu et la formation de citoyens éclairés dans un système scolaire qui considère les élèves de la filière professionnelle comme des ressources humaines, dociles et malléables ? Défi quasi impossible quand on voit que les perspectives culturelles sont aujourd'hui condamnées à disparaître dans le cadre de cette nouvelle école soumise au capitalisme néolibéral. Les analyses de Bourdieu sur l'école sont désormais périmées car le grand changement actuel est la disparition de l'autonomie scolaire autant dans son fonctionnement que dans les contenus d'enseignement. Et il ne s'agit pas seulement d'une transformation structurelle, les relations entre les agents du service public sont modifiées selon les règles du management, le fonds de commerce, de nombre d'écoles privées du supérieur.
Mais la vraie question, et celle que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment lutter contre les inégalités du système éducatif français ?
Les moyens actuels sont largement insuffisants pour accompagner un public aussi fragile. Les incantations sur la méritocratie et l'ambition sonnent creux. Ces mots sont en tel décalage avec la réforme de la voie professionnelle qu'ils résonnent comme une insulte faite aux élèves, l'expression primaire d'un mépris de classe. Les élèves n'ont manifestement pas choisi d'être dans ces sections. Cependant, ils ont le droit au respect et à une formation émancipatrice. Qu'importe leur intelligence, qu'importe leur bêtise. Certes, ils éprouvent parfois une forte opposition à l'égard de l'institution scolaire, qui se traduit par une agressivité verbale qui peut devenir coutumière chez certains, mais elle ne devrait justifier en aucun cas un traitement différencié de leur scolarité. Or, la République abandonne, dans un silence coupable, ses citoyens de seconde zone.
Merci Arthur. D'accord.
Air-conditioned bunker where the Norwegians have stored heritage.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
Phileas, tu nous parles science.
Avant de parler de science, je vais vous parler de la Bible. D'après la Genèse, la toute première forme de vie apparue sur Terre serait l'herbe et les arbres fruitiers au troisième jour de la création. Le cinquième jour, il créa les animaux aquatiques et les oiseaux, et le lendemain, les animaux terrestres, puis les hommes qui les dominent. Il semblerait en réalité que la vie ne se soit pas faite en trois jours, dont un jour de pause au milieu, mais plutôt en continu, et ce depuis 3,5 milliards d'années, soit environ 28 688 524 fois l'âge de Jeanne Calment, la doyenne de l'humanité.
Ok, donc ce soir, tu as décidé de nous faire un point sur l'histoire de la vie ?
Exactement, Mathilde, et on va dresser ici la biographie de la vie. Donc comme je le disais, elle serait née il y a 4 milliards d'années. Pour les plus optimistes, ça remonterait jusqu'à 4,28 milliards d'années, alors que notre bonne vieille Terre n'en a que 4,54 milliards. Ces valeurs se précisent au fil de la recherche par l'étude de traces de vie fossiles dans des roches exceptionnellement vieilles et bien conservées. Par traces de vie, n'entendez pas ossements et branches prises dans les roches et autres insectes dans l'ambre, loin de là. Il s'agit plutôt de traces de vie microscopiques que l'on retrouve dans certaines roches sédimentaires.
Donc la vie, elle est très très vieille, et si on parle de sa naissance, elle est apparue comment ?
Eh bien, c'est là le problème, on ne sait pas vraiment. Ou plutôt, on n'est pas certain, puisque plusieurs théories entrent en désaccord, que ce soit sur la chronologie des événements, comme sur les événements en eux-mêmes. D'aucuns diront que l'ADN, la molécule de la vie, est apparue en premier, d'autres préféreront l'ARN, son cousin. Qui parmi les sucres et les acides aminés est apparu en premier ? Le doute persiste. Quant à son lieu de naissance, tous s'accordent pour dire qu'elle a eu lieu dans l'eau, mais est-ce au fond des cheminées océaniques, en surface, en plein océan, en bordure de rivière ? On ne sait pas. À peu près toutes les théories ont leurs atouts et leurs faiblesses, et donc on ne peut pas encore répondre à cette question. Il se pourrait même que, dès le début de la vie, même ces débuts auraient pu être difficiles, et que les premières formes de vie apparues sur Terre soient entrées en compétition.
Beaucoup d'incertitudes. Tu nous donnerais des informations certaines ?
J'y viens, car plus on remonte loin dans le temps, moins l'on a d'informations sur le cours de la vie. On peut toutefois repérer les grands événements survenus au cours de son histoire. On peut noter un événement majeur il y a 3,5 milliards d'années, qui est l'apparition des organismes photosynthétiques. Et qui dit photosynthèse, dit oxygène que l'on respire tous. Et pendant plus d'un milliard d'années, les organismes photosynthétiques se sont développés et ont libéré une quantité gigantesque d'oxygène, modifiant drastiquement la composition de l'atmosphère. À tel point qu'il y a 2,4 milliards d'années est survenu un événement terrible, la grande oxydation, entraînant la disparition de l'essentiel des autres organismes sur Terre. Seuls alors ont survécu les organismes photosynthétiques eux-mêmes et les quelques autres unicellulaires capables de respirer ce dioxygène.
Et donc sont apparus les animaux ?
Pas tout à fait. D'abord s'est développée la vie eucaryote, c'est-à-dire les cellules dotées d'un noyau, à la différence des bactéries. Les organismes pluricellulaires ne sont apparus qu'il y a seulement 1,5 milliard d'années, la complexité des organismes augmentant au fil des générations. C'est à partir des fossiles de ces animaux, des animaux qui sont apparus il y a 800 millions d'années seulement, qu'a été établie la dernière partie de l'échelle des temps géologiques. Pendant ces 800 millions d'années ont survenu des crises biologiques que l'on peut très bien analyser dans la roche, et donc de diverses intensités, puisqu'elles ont entraîné la disparition de nombreuses espèces bactériennes, animales ou encore végétales. La plus connue d'entre elles étant la dernière, l'extinction crétacé-paléogène, qui a eu lieu il y a 66 millions d'années et qui est à l'origine de la disparition de 50% des espèces, dont les dinosaures, excepté les non-aviens, ancêtres de nos oiseaux actuels. Ce n'est qu'après cet événement que se sont développés les mammifères tels qu'on les connaît aujourd'hui. Nous ne sommes ainsi qu'une modeste espèce apparue il y a 300 000 ans.
Et le mot de la fin ?
Le mot de la fin est que la vie a mis un paquet de temps à prendre la forme qu'elle a aujourd'hui et les espèces évoluent en continu. Devant cette énorme diversité et les 6 vies extraterrestres il y a, rien ne dit qu'il s'agisse de grands humanoïdes verts ou de simples unicellulaires. Rien n'oblige d'ailleurs que la vie soit née de la même façon que sur Terre.
Merci beaucoup Phileas pour cet édito scientifique et ce petit point sur l'histoire de la vie. Il est bientôt 21h, on est hyper en retard, mais on garde encore plein de temps pour de la musique et de la culture. Alors, il y a Nathan et Martin pour la musicienne. Donc vous êtes au complet, comment vont les mélomanes ?
Très bien, merci Mathilde, mais ne perdons pas une seconde car entre riffs endiablés et balades langoureuses, on a affaire cette semaine dans la musicienne.
Ou je vais dire des trucs simples. I need somebody.
Non,
alors, on ne fait pas exactement dans le langoureux pour cette première musique. Et si vous ne savez pas si vous devez vous endormir, vous rouler en boule dans un coin, sauter de partout ou juste rester là, la bouche ouverte, à me regarder, ou plutôt à regarder votre poste de radio, c'est à peu près ce que cherche à provoquer The Great Old Ones avec cette musique dont le titre est par ailleurs évocateur puisqu'elle s'appelle Of Dementia, quelques notes sobrement intitulées. The Great Old Ones est un groupe de dark black metal français produit par le label Ladlo, les Acteurs de l'Ombre, un label reconnu de black metal français. Pour ceux qui ne l'ont pas noté, et pour rester dans le thème du dernier direct, le titre du groupe est une référence directe à l'univers lovecraftien, dans lequel les grands anciens sont un groupe de déités anciennes, ténébreuses, présentes à la fois partout et nulle part, dirigées par le célèbre Cthulhu, star de nombreux jeux d'horreur. The Great Old Ones seront donc présents le soir du 26 novembre, même s'il y a beaucoup à faire ce jour-là, à partir de 19h au Rock'n'Eat, auquel ils passeront avec les Chants des Morts. C'est la première fois, je crois, que je présente le Rock'n'Eat dans cette émission. C'est une salle du 9e arrondissement de Lyon qui se situe sur les bords du Saône. Ce soir, ils passeront pour 17€, mais je vous conseille la salle, c'est souvent prix libre. Pour la suite, je crois que Nathan a une proposition à vous faire.
Et oui, Martin, et elle se tient en 4 mots, et si l'on ride. Cette excitante proposition nous vient de l'artiste suisse Muddy Monk qui nous propose un voyage, une long ride pour paragrapher le nom de son album. Lui pour qui l'achat d'une moto a tout bouleversé, ce chanteur-producteur nous en fait le pré le temps d'un concert. Prenez un synthé et une voix androgyne pour les deux roues du cheval de métal, insérez dans le moteur quelques litres de mélancolie et laissez-vous porter par les lancinantes ballades poétiques de Muddy Monk. Poétique, oui, car si la musicalité pourrait se suffire à elle-même, les mots nous emportent eux aussi, dans ses rêves bleus, comme il le dit lui-même.
Et quand partons pour ce voyage ?
Les rêves bleus seront à vivre dans la nuit noire du mercredi 27 novembre à 19h au club Transbo. Le billet est à 19€.
Devant tant de poésie et de voyages, je suis obligé de me raccrocher à la terre. Donc, plus terre à terre sans doute, mais efficace et indémodable, les Salles Majestés sont de retour à Lyon. L'occasion déjà de réécouter ça ou de l'écouter pour ceux qui auraient manqué ce chef-d'œuvre de subtilité.
Actives depuis déjà 1980, les Salmages marient harmonieusement la finesse politique et le punk. Indépendants et producteurs de tous leurs albums, ils n'en sont pas moins devenus un groupe iconique du punk français. Les Salles Majestés seront présents au CCO de Villeurbanne le 4 décembre pour 20€ en prévente. Ils passeront avec GBH, pour ceux qui connaissent, et Charge 69. Et, dans un tout autre domaine, Verlaine écrivait en 19e siècle « Chute de Rhin, chute du rêve enfantin d'être sage ». Notre prochain artiste est du même avis.
J'aime quand tu gardes tes dessous.
Un refrain pour le moins explicite.
Explicitement sensuel, vous ne pouvez pas le voir, mais à Transistor, on a tiré les rideaux, on a réduit la lumière pour écouter Les yeux dans les yeux d'A2H. Ce rappeur parisien qui est confié dans une interview accordée à Au Calme, avoir un jour fomenté un boycott général dans son lycée contre les contraintes manifestement trop lourdes imposées à tous les élèves, révolte à laquelle se sont même joints certains de ses professeurs, raconte-t-il. C'est des années plus tard, en 2016 précisément, qu'A2H intitule son album « Libre ». Avec pour pochette une chaîne brisée, tout un symbole. Si l'album ressemble plus à une suite d'introspection sur ce qu'il est et sur ce qu'il vit, plutôt qu'à une affirmation de liberté, A2H continuera par la suite à se libérer des carcans musicaux, aussi entre rap et chant, pour son dernier album intitulé « L'amour », amenant une guitare électrique dont il joue en concert, chose plutôt rare, voire quasiment jamais vue dans le paysage rap. Nous considérons ici l'album « Rebirth » de Lil Wayne comme n'ayant jamais existé pour le bien de tous. A2H sait faire beaucoup et il le fait bien. Ce performeur habitué de la scène sera ce samedi 23 novembre au CCO Villeurbanne. Venez me rejoindre pour 18€.
Et voilà pour cette musicienne pour le moins éclectique. On passe à la suite car on n'a plus beaucoup de temps. C'est au Journal de la Culture.
Merci pour ça.
Bonsoir, je viens à vous avec une exclusivité, le dernier album de Chopin, interprété par Eduardo Torbianelli. Ce n'est pas un album comme les autres et je m'en explique. En effet, l'interprète a choisi de jouer sur un instrument d'époque et d'après des techniques pianistiques de l'époque. Tout d'abord, l'instrument joué n'est pas un piano moderne, mais un piano forte de 1842 fabriqué par Ignace Pleyel. Les pianos de ce facteur étaient les favoris de Chopin pour leur légèreté de son. Il faut savoir que les instruments de musique, avant d'être les objets standardisés que l'on connaît aujourd'hui, ont été pendant la majorité de leur histoire des work in progress constants, des objets ouverts à la recherche, sur lesquels on faisait des expériences pour les améliorer. Parfois, un interprète ou un luthier avait une idée, rajoutait une corde, une pédale ou que sais-je, et il la réalisait, tandis que dans un autre pays, on faisait autrement. C'est pour ça qu'en musique, il est difficile de parler d'évolution. Ce sont plutôt différents états d'un instrument qui ont pu coexister, des ramifications si l'on veut. On hérite encore aujourd'hui de ces différences. On fabrique des pianos à la viennoise ou à la française, par exemple.
Mais pourquoi est-ce qu'on cherchait tout le temps à modifier des instruments ?
C'est ça le plus intéressant. Ces transformations obéissaient en fait à des besoins esthétiques qui évoluent selon les époques, selon le type de public et aussi selon le mode de transmission de la musique en société. Cela dépendait aussi de l'inventivité des compositeurs avant-gardistes, tout autant que du niveau des interprètes que ces derniers avaient à se mettre sous la dent. Chopin, lui, se différenciait par la délicatesse de ses compositions. Son public était un cercle restreint d'oreilles sensibles. Les oreilles des autres se tendaient plus volontiers vers le son brillant et éclatant que rendaient les pianos de Sébastien Érard sous les doigts d'un Liszt.
Et donc, c'est quoi la différence entre les pianos d'avant et ceux d'aujourd'hui ?
Alors, selon Eduardo Torbianelli, l'interprète de l'album, la différence ne réside pas dans le niveau sonore, supposé moindre, que rendraient les pianos d'avant par rapport à ceux d'aujourd'hui, sous prétexte qu'il faille maintenant remplir des salles de concert. En fait, c'est surtout que les pianos forte étaient d'abord conçus pour être extrêmement maniables, pour pouvoir faire résonner une infinité de nuances. Pendant des siècles, le modèle dominant a été celui de la voix humaine. Tout instrument devait être capable de chanter. C'est pour ça qu'en s'intéressant au traité du bel canto, une technique de chant très expressive, particulièrement en vogue au XVIIIe, XIXe siècle, on en apprend sur ce vers quoi doit tendre tout musicien. Le pianiste, comme le chanteur de l'époque, doit être éloquent, rhétorique, exprimer le mieux possible les émotions les plus fines.
Mais attends, comment on peut savoir comment il joue à l'époque? On n'a jamais pu les entendre, non?
C'est vrai que ce voyage dans le temps semble invraisemblable et surtout infaisable. Comment entendre ce que nos ancêtres entendaient? Comment reconstituer un imaginaire sonore? Eh bien, on dispose de sources. Il y a des traités de musique écrits par des théoriciens et des compositeurs qui expliquaient comment interpréter leur musique. Il y avait aussi des témoignages de gens qui décrivent en détail l'effet que produit telle musique sur le public. Et quelque chose d'inestimable, ce sont les enregistrements. Écoutons Chopin par Raoul Kochalski, qui est considéré comme son meilleur interprète. Et pour cause, il avait pour professeur l'assistant du compositeur. Faites attention à la liberté que prend Kochalski avec le tempo de ce fameux nocturne.
Oula, c'est vrai que pour les ménomanes, il est pas très métronomique son tempo.
Mais oui, car le principal objectif n'était pas l'exactitude mathématique, mais l'expressivité. On se fiait beaucoup plus à la respiration, au souffle naturel, d'où la pertinence du chant, pour tomber au creux du temps. On parlait d'aplomb, c'est-à-dire d'une chute qui vient d'une sûreté intérieure. Le tempo, c'était combien de temps tu as besoin pour exprimer ce que tu as compris de la pièce.
Mais pourquoi chercher à jouer comme il jouait avant? Je veux dire, aujourd'hui, les pratiques, elles évoluent et c'est tout aussi bien, non?
En fait, en recontextualisant la musique, on parvient à comprendre la manière dont elle a été pensée et vécue et à se rapprocher du sens et de l'intention de l'œuvre. Chez Chopin, cette intention est avant tout une recherche de vocalité et d'expressivité dans la plus pure tradition romantique, sur le modèle du bel canto, mais aussi de la mélopée polonaise qui teinte beaucoup de ses œuvres d'une nostalgie profonde. Comme dans cette mazurka. Écoutez comme la ligne mélodique initiale, doucereuse et mélancolique, est rattrapée par le rythme fier et douloureux de la danse polonaise. Comme le dit Torbianelli, cette recherche du style est très profonde. Une esthétique n'est pas quelque chose de superficiel. Pour provoquer un effet, il faut retrouver une émotion véritable, et ensuite se servir de l'instrument pour accueillir les impulsions et rendre les intentions. En fin de compte, l'entreprise de reconstitution ne vise pas tant à reproduire en tout point la manière dont on jouait en 1840, mais plutôt à retrouver le chemin par lequel passaient les interprètes pour susciter un effet à partir d'une émotion et d'une musique véritablement intérieure. Il s'agit en somme d'écouter le passé pour mieux s'écouter soi-même. C'est donc Eduardo Torbianelli qui interprète des œuvres tardives de Chopin chez Glossa.
Et c'est sur ces touches de piano et cette fin du JRA très musicale qu'on clôt le JRA. C'était le journal radiophonique amplifié cette semaine avec Marie Douniac, Rémi Cerda, Nicolas Sendé, Adèle Domas, Arthur Kramer, Clément Lui, Elliot Moine, Victor Andrade, Arthur Guérin-Turc, Phileas Larcher, Nathan Vira, Martin Touzeau et Julie Kravitch. Et en régie, il y avait le super Arthur Kramer. Nous remercions également ENS Media pour son soutien technique. Le JRA, c'est une émission coordonnée par Mathilde Picard et on se retrouve pour la prochaine diffusion le 5 décembre. Ce sera une journée riche en mobilisation et donc en actu sur votre radio préférée.